de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Peut-être en te mettant à l'écoute, te prépares-tu à entendre le défenseur des commerçants et des artisans. Ce Poujade enfin que ton journal te présente avec une bienveillance particulière, comme un énergumène uniquement soucieux d'organiser le refus systématique de l'impôt.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le mouvement des Gilets jaunes a suscité de divers côtés, depuis qu'il a commencé, un rapprochement avec le poujadisme. Le poujadisme, cette explosion de colère collective qui a marqué en profondeur les dernières années de la 4e République, de 1954 à 1958, en ébranlant les institutions et en contribuant au discrédit du personnel politique. J'ai donc pensé qu'il serait intéressant, selon la vocation de cette émission, d'y aller voir de plus près, en se demandant ce que le mot de « poujadiste » peut signifier dans les esprits de nos contemporains après 70 ans écoulés. Et surtout en allant considérer la nature, les ressorts et les effets de ce phénomène replacé dans son temps et resitué dans la durée. Assurément, la France de l'époque était bien différente de celle d'aujourd'hui. Quant à ses équilibres géographiques, quant à la répartition du travail et des richesses, quant au poids respectif des catégories sociales, quant à la nature des institutions, quant à la mémoire du passé récent, quant aux attentes partagées ou contradictoires des populations. Les partis politiques, les syndicats, les églises structuraient la société avec une vigueur qui a disparu. Parmi les moyens de communication, la radio était dominante et la télévision balbutiait encore dans sa prime jeunesse, à une distance immense des nouvelles technologies qui modifie désormais en profondeur les procédés de la mobilisation et jusqu'à la démarche même des manifestations de masse. Mais avec tout cela, il serait bien étonnant que ne se révèlent pas d'une époque à l'autre des résurgences et des continuités dans les formes de la contestation selon certains traits durables du tempérament national. J'ai convié Dominique Borne, qui a longtemps enseigné l'histoire dans les classes préparatoires à Henri IV et était doyen de l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale. Il a publié, jadis, l'un des livres les plus importants sur le poujadisme, un ouvrage qui n'a rien perdu de sa pertinence.
Un mouvement de flamme est né à s'insérer. Un homme, une grande âme, par l'impôt écœuré. Frapper l'injustice, un jour s'est déchaîné. Sa fougue créatrice nous a tous entraînés. Mille poujades d'un cœur magnanime, avec toi nous lutterons. Et la foi qui nous anime fait que nous triompherons. Nous menons un combat pacifique sous ta vibrante impulsion. Pour sauver la République et l'honneur de la nation. Vous qui peinez sans cesse, ouvriers paysans, pour que l'Union progresse, venez grossir nos rangs. Décrétons sans attendre les états généraux et nous pourrons prétendre avoir fuir nos bourreaux. Oui, poujade d'un cœur magnanime, avec toi nous lutterons. Et la foi qui nous anime fait que nous triompherons. Nous menons un combat pacifique sous ta vibrante impulsion. Pour sauver la République et l'honneur de la nation.
Dominique Bande, bonjour.
Bonjour.
C'était la chanson officielle de l'UDCA, de l'Union démocratique des commerçants et des artisans, le grand mouvement de Poujade. Ça s'appelait la Marche de l'Union. Je n'ai pas le nom de l'interprète ni la date, mais je sais qu'il s'agit d'une édition de la SERP, fondée et dirigée par Jean-Marie Le Pen, qui, nous le verrons, a été député poujadiste en 1956. Je trouve que cette chanson déjà emporte un certain nombre de thèmes que nous allons retrouver tout au long de notre conversation.
Certainement, c'est la volonté d'inscrire un mouvement dans une histoire. Et dans l'histoire de France, bien entendu, et s'il y avait une chose à dire, c'est qu'il est d'abord patriotique.
La nation, la République.
La République, et puis représentant la vraie France, et s'opposant à ceux qui défendent une France qui n'est pas la vraie. Donc la vraie France, c'est celle des petits commerçants, c'est celle que représente Pierre Poujade. Et aussi la volonté, semble-t-il, de fixer une mythologie du mouvement. Il faut une histoire, hein. Il faut que ça s'inscrive dans une histoire. Et là, c'est très français, je crois.
Avec la mention des États généraux, qui renvoie à la Révolution française.
Absolument. Mais
et au-delà.
L'expression « nous sommes en 1788 » est une expression de Poujade. Alors, l'intéressant dans la période, c'est que Mendès France disait pareil. Hein. Mendès France disait « nous sommes en 1788 », Poujade aussi, mais on l'entendait, ça n'avait pas le même sens chez l'un et chez l'autre. Hein.
Et parler des États généraux, c'est évoquer aussi ce qui fut à leur origine, c'est-à-dire la question fiscale.
Ce sont les cahiers de doléances contre la fiscalité, bien évidemment.
Que nous retrouvons aujourd'hui, et plusieurs en parlent.
C'est-à-dire, c'est l'idée d'un État lointain. État lointain, c'est Paris, qui est visé, puisqu'on parle depuis la province, on parle depuis la vraie France, celle des campagnes et des petites villes. Et on dénonce l'État qui, sans se soucier des braves gens de France, du populo, comme disait Poujade, là je cite à peu près Poujade. Hein.
De Gaulle aussi avait cette expression, le bon populo.
Le bon populo, hein. Mais il y a une continuité, je fais une parenthèse, mais il y a une continuité de Poujade à De Gaulle.
Vous nous expliquerez ça.
Il faut que j'explique ça, absolument. Mais elle est réelle. Hein. Et il y a véritablement la volonté de dénoncer ceux qui nous oppriment. Alors, les historiens ont pu montrer que le canton de Saint-Céré a toujours été un lieu de contestation fiscale. Il y a eu des croquants dans la région depuis toujours. Hein.
Où est Saint-Céré, il faut nous rappeler exactement.
Dans le Lot, pas très loin de Cahors. On est dans le Lot, on est au fond de la France et on est avec un personnage qui a une petite boutique, 9 mètres carrés, et qui vend des livres qui ont été commerciales, avec des valises. Il parcourait pour placer des livres d'édition pieuse ou de différentes éditions.
Hein. Il faut que vous replaciez l'itinéraire.
Alors, c'est un jeune homme qui sort de la guerre. Il sort de la guerre où il a été d'abord compagnon de France, la jeunesse du maréchal, bien sûr.
Avec le coq qui était l'emblème.
Avec le coq
Gallus.
Il a gardé après dans son mouvement.
Importance des emblèmes.
Compagnon de France. Et puis, au moment de... Il a 42, quitté la France par l'Espagne. Il a gagné le Royaume-Uni, il a gagné l'Angleterre, où il a servi dans la Royal Air Force, dans l'aviation britannique. Donc, il est à la fois marqué par le maréchal et par De Gaulle. Il est imprégné, sans qu'il s'en rende compte lui-même, et il met côte à côte du discours pétainiste, vichiste, et du discours résistant.
C'est ce que notre ami, le grand historien Jean-Pierre Azéma, a appelé les vichisto-résistants. Après tout, François Mitterrand est de cette catégorie aussi.
Absolument, absolument. Et donc, il est à Saint-Céré. Il est déjà chargé de famille. Dans ses pérégrinations, il a trouvé une infirmière en Afrique du Nord, Yvette, qui va être la madone du mouvement.
Il l'a trouvée, vous voulez dire qu'il l'a épousée?
Il l'a rencontrée en Afrique du Nord. Elle était infirmière. Et très vite des enfants, père de famille. Et il reproduit, ça qui est important à comprendre, il reproduit ce qu'il estime être, parce qu'il l'a appris par l'histoire, l'ascension sociale normale dans la République. Ça, ce sont les radicaux qui lui ont appris ça. Hein. C'est de devenir indépendant. Il est imprégné par la pensée du petit producteur indépendant pilier de la République.
C'était déjà, après tout, Gambetta, les couches nouvelles.
Absolument, absolument. Et donc,
la République devait se fonder précisément
sur ces couches nouvelles.
Et absolument. Sur leur agrégation.
Voilà. Donc, créer une boutique, c'est rentrer dans la République. Or, ça marche pas. Or, il y a trop d'impôts. Or, alors on est en 53, il y a une conjoncture qui n'est pas très facile, hein, mais...
Une conjoncture qu'il faut préciser, effectivement.
La conjoncture, il y a un ralentissement de la croissance en 53, précisément.
Même si on est au début des 30 glorieuses.
Et surtout, il y a une exagération, une inflation de l'appareil commercial français. Il y a un nombre de boutiques considérables en France. Ça, c'est un produit des effets de l'occupation, de la rareté, où se sont multipliés les petits commerces pendant la guerre, hein, et qui à l'époque où n'arrivent plus à faire leurs affaires, quand nous sommes en 53.
De ce point de vue-là, nous ne sommes pas si loin. Voilà des premiers rebonds avec aujourd'hui de cette difficulté de vivre d'un grand nombre de petits commerçants.
Absolument.
Dans ces villes moyennes en particulier, aux petites villes, on a vu les rues principales être désertées par les anciens commerces.
Absolument. Absolument.
Et c'est aussi l'époque où, enfin, quelques années après le moment où ce géographe qui s'appelait Jean-François Gravier avait publié un livre... Beaucoup d'écho en 47. Paris et le désert français.
Absolument.
Le titre avait fait mouche.
Parce que tout se concentrait à Paris. Et alors, dans la mythologie poujadiste, qui défend le petit commerce qui est pilier de la République, encore une fois, il y a l'ombre des grandes surfaces qui apparaît. Il accuse dans son livre, J'ai choisi le combat, il accuse Mendès France de méditer l'ouverture d'un supermarché en Corse. Alors, je ne sais pas pourquoi, là, on est dans le complot complet, bien sûr, hein, mais l'ombre du supermarché est là, dans tous les propos poujadistes. On veut étrangler le petit commerce.
Il y a d'ailleurs un personnage qui est de la même génération exactement et qui peut faire contraste vif avec Poujade, c'est Leclerc.
Et Leclerc a le réflexe inverse. C'est-à-dire, au lieu de se raccrocher aux structures anciennes, Leclerc décide, par exemple, de court-circuiter les intermédiaires. Il n'utilise plus les grossistes. Jamais Poujade n'a mis en cause les structures du commerce, les grossistes, etc. Leclerc décide à Landerneau, on est dans les mêmes années 50, hein, de vendre directement, ça commence par des boîtes de biscuits, qu'il va chercher chez le fabricant directement. Mais progressivement, il réduit les coûts, il vend moins cher. Et les gouvernements ont tendance, bien sûr, avec l'inflation, la vie chère, de privilégier ceux qui vendent moins cher. Hein. Et donc... un homme comme Poujade et les siens se sentent sacrifiés par la République.
D'où l'approfondissement de ce fossé entre les régions, on dit encore la province, le mot hideux de province, comme le dit Malraux, prospérait encore, et Paris, et c'est une opposition que l'on retrouve évidemment aujourd'hui, Paris à la fois désiré et détesté.
Exactement, c'est-à-dire que tout le sens du mouvement... c'est d'aller à Paris. Le premier succès, c'est Meeting au Veldiv.
Oui, on est là déjà un an après la naissance,
voilà, après la naissance
du mouvement.
Mais le désir, c'est d'aller conquérir Paris. D'ailleurs, le mouvement Poujade n'a jamais réussi à s'implanter partout en France. Hein. Nord-Pas-de-Calais, tout le nord de la France, toute la partie nord de la France, est restée à peu près imperméable au poujadisme.
Contrairement aux Gilets jaunes, on a l'impression que... la répartition est assez générale
beaucoup plus étale.
Alors il faut évoquer le déclenchement de la révolte, en rappelant que le gouvernement d'Antoine Pinay, en 1952, qui affirmait qu'il gérerait la France comme sa petite entreprise, il avait décidé une amnistie fiscale, ce qui du même coup avait libéré l'énergie des contrôleurs du fisc, qu'on appelait les polyvalents, et qui... vont renforcer leur pression sur tout ce monde de la boutique et du petit commerce. Et c'est ainsi que la révolte est née, et qu'elle est née à Saint-Céré. Très souvent, dans l'histoire, il y a une impression de frustration, et puis il faut un brandon qui vient brusquement donner vie à la révolte. Écoutez donc ce récit de Pierre Poujade lui-même qui évoque le déclenchement de cette révolte. Et après, vous entendrez le récit d'André Périnet qui a été un poujadiste de la première heure. C'est un extrait de l'émission L'histoire en direct de Patrice Gélinet, le 5 février 1990. Nous étions sur France Culture.
À cette époque-là, j'étais conseiller municipal. J'étais conseiller municipal RPF. Voilà. J'étais tout seul. Et il y avait un groupe communiste et socialiste important à Saint-Céré, puisque c'est le député communiste était de Saint-Céré. C'était le fief communiste. Et à la tête de ce groupe, il y avait l'ancien chef des maquis qui s'appelait Fréjac, qui était un ancien chef des FTP, qui était un artisan, un charron, une force de la nature, un rugbyman, un costaud, ça, et qui lui était contrôlé. Moi, je ne l'étais pas. Et le Fréjac vient me trouver, il m'appelait monsieur à l'époque, alors il me dit, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y avait son truc, je lui dis, monsieur, aujourd'hui c'est vous, demain ça sera moi. Il dit, ouais, mais ça peut pas durer. Ben, je dis, ça peut pas durer, laissons les couteaux au vestiaire, et puis unissons-nous. Et on se réunit à l'hôtel de Paris, qui était un conseiller municipal socialiste. Dès le départ, on peut parler du poujadisme maintenant, ça paraît dire bon, il raconte n'importe quoi. Et effectivement, ce n'était pas réfléchi, c'était instinctif. Instinctivement, j'avais senti que quand on veut défendre un problème social, il faut associer toute la communauté. Ceux qui sont victimes, mais même les autres, parce que les autres, un jour ou l'autre, en prenant plein les gencives, par voie de conséquence. Donc, la population est appelée sous la halle. Nous disons, bon, ben, on va refuser le contrôle. Lorsque les contrôleurs sont arrivés chez un nommé Neuvière, qui était marchand de chaussures, à côté de ma petite librairie, nous avions envahi la librairie. Et les trois pèlerins d'administration arrivent, ils étaient un peu constipés quand même, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude, évidemment, ça s'était jamais fait. Et alors, de voir tout ce monde, alors ils disaient, monsieur Neuvière, vous refusez de donner votre comptabilité? Alors j'interviens lui disant, monsieur Neuvière ne refuse pas, mais s'il sort sa comptabilité, nous allons la prendre. Parce que nous refusons les contrôles. Monsieur, dit-il, l'administration a décidé qu'avant la fin du mois d'août, tous les contrôles seraient terminés. Ben, je dis, monsieur, fallait bien dire quelque chose. Alors c'est comme ça que se lancent les paroles historiques. Ben, je dis, monsieur, vous direz à l'administration qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de contrôles.
Quand nous savions que quelqu'un allait être contrôlé, nous arrivions à 30, 40, 50, 60, 100 commerçants, 200, 300. Et en disant au contrôleur, monsieur, ici vous n'êtes pas chez vous, voulez-vous foutre le camp? Et on les virait purement et simplement.
Il n'y a pas de violence, non?
Pas de violence, violence verbale. Il y a eu quelques petits accrochages, quelques petits... Je pourrais parler d'un monsieur de Seine-et-Marne qui s'est retrouvé un jour tout nu dans la forêt de Fontainebleau. Enfin, c'était pas des violences... physique, quoi. Pour rigoler.
Pour rigoler, c'est important. Il y a ce côté convivial qui frappe. Et puis, l'idée de Poujade, tendance à se mettre lui-même en scène, comme le leader.
Et puis, il a appris l'histoire à l'école, Poujade. Il se souvient de Mirabeau, l'ouverture de l'État généraux.
Qui a dit au représentant du roi...
Quand c'était le marquis de Drebrézé qui est entré demandant... de se disperser, de quitter la salle. Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Et Poujade, qui a lu un peu d'histoire, qui a ça en tête, hein, c'est bien que, il le dit d'ailleurs dans le chapitre de son autobiographie, il dit « À toute histoire, il faut une légende. »
Je choisis le combat.
Et c'est ça la légende, ce qu'on vient d'entendre. Alors, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse, peu importe. Hein. C'est la volonté de colporter et de montrer l'union au point de départ. C'est pas un hasard s'il dit que Fréjac était FTP et
communiste.
Était communiste. Hein. Et le mouvement a été soutenu par le Parti communiste en son début. Hein.
Alors que lui a été membre du RPF, du Rassemblement du Peuple Français, qui est le parti du général de Gaulle.
Le parti du général de Gaulle créé en 1947, et il avait été élu aux élections municipales sur une liste RPF.
Cette idée de combat transpartisan, il reste assez familier aujourd'hui, en somme, puisque les gilets jaunes tiennent beaucoup à dire qu'ils ne sont pas ni de gauche ni de droite, avec une étrange symétrie d'ailleurs avec la campagne d'Emmanuel Macron lui-même.
C'est la méfiance vis-à-vis de tout parti politique. C'est la méfiance vis-à-vis de tous ceux qui sont déjà installés Poujade disait les ensaucissonnés. Tous les ensaucissonnés, il faut s'en méfier parce que ils vont nous rouler, les ensaucissonnés vont nous rouler dans la farine, hein, on pourrait le dire à peu près ainsi. Donc il faut une légende, et la légende de l'acte initial contre ce qu'il appelait la Gestapo fiscale, les polyvalents que vous évoquiez, c'est la Gestapo fiscale.
Le mot était lourd.
Pour lui, le mot était très très lourd. Hein. L'alourdissement des contrôles fait que les ajustements plus ou moins licites, avec dans les déclarations, deviennent de plus en plus difficiles.
Avec des comptabilités qui n'étaient souvent pas très précises.
Avec des comptabilités qui étaient... On ne se payait pas un comptable à l'époque. On faisait soi-même sans comptabilité. Ou c'est la, en général, dans les petits commerces, on a une vieille tradition française. C'est l'épouse qui fait la comptabilité. Hein. Et donc, il s'agit d'enraciner la révolte dans un geste originel. Et ce geste montre l'union de tous les Français, tous les vrais Français, l'union de tous les vrais Français... contre Gestapo fiscale, contre ceux qui, on ne sait pourquoi, qui ne représentent en aucun cas la vraie France.
Avec à l'origine une méfiance à l'égard, ou une distance en tout cas, envers les salariés. Je vois dans ce livre que vous citiez, Dominique Borne, je vois ces propos de Poujade, dans un centre touristique comme Saint-Céré, où je pouvais vivre modestement, certes, mais heureux, vais-je crever sans rien dire ? Mon pauvre Pierrot, me dit un fonctionnaire des finances qui m'a vu naître, tu ne connaissais pas ton bonheur quand tu étais salarié. Si tu veux un conseil, vends ton affaire, si tu trouves une poire et reviens où tu étais, car le commerce est fichu. Peut-être, commente Poujade, serais-je obligé de plier le genou. Mais avant, quelqu'un m'entendra. Je risquerai, s'il le faut, tout le fruit de ces dures années de travail. Tant pis. Le sort en est jeté, je choisis le combat. Et c'est là qu'il trouve cette formule qu'il réutilisera à la fin de tous ses discours, se coucher pour mourir ou se lever pour vivre.
Eh oui, avec le sentiment d'incarner, on l'évoquait tout à l'heure, les couches nouvelles de Gambetta. Hein. Il incarne les couches nouvelles de Gambetta, donc il est la République.
Hein. Mais alors comment s'étend le mouvement ? Il se passe quelque chose d'extraordinaire à partir de ce point de départ de Saint-Céré. Et la comparaison avec aujourd'hui est intéressante.
Oui, parce que sans réseaux sociaux, hein, les choses se passaient beaucoup sur les marchés, sur les foires. Et donc, les foires et les marchés, avec l'importance dans la diffusion du mouvement des marchands ambulants. Quand on l'étudie du département en département, on voit bien comment ça part des petites villes et ça arrive vers le chef-lieu de département. Par exemple, en Corrèze, la plus grande ville n'est pas Tulle, mais Brive. Brive a été très tardivement atteint. Et moins atteint que Égletton, que les villes plus petites. Donc, dans la diffusion des mouvements, c'est les petites villes qui semblent les plus touchées et les plus aptes à emboîter le pas à une révolte comme celle-là. Et c'est comme ça que ça gagne. La première lutte a été contre les structures des chambres de commerce, des syndicats de commerçants, etc. Les structures locales de commerçants.
Hein. Méfiance à l'égard de toutes les institutions, les syndicats.
Méfiance à l'égard de toutes les institutions, absolument. Et on risque tout le temps de se faire avoir, ne pas se faire avoir.
Vous ne trouvez pas qu'il y a un rebond aujourd'hui, un écho ?
Ah, il y a un rebond sur la méfiance. Au bout du bout, cette méfiance extrême, c'est parce qu'il y a un manque de reconnaissance. Alors c'est extrêmement complexe comme mouvement.
Hein. Le sentiment qu'on éprouve un mépris de la part des importants,
voilà,
comme disait
les Alain. Importants, les importants ne nous regardent pas, ne conçoivent pas que nous puissions être ce que nous sommes réellement, le terreau réel de la France. Conforté par très rapidement le mépris des intellos, le mépris de ceux qui pensent, je mets plein de guillemets bien entendu, le mépris de ceux qui pensent vis-à-vis de ce mouvement qui n'a jamais été considéré comme un mouvement sérieux dans l'ensemble des mouvements. Alors qu'il n'était pas au point de départ, il faut penser quand même qu'il ne se présente pas comme un mouvement politique, il ne faut pas se tromper. Hein. C'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement de défense d'une catégorie au point de départ. Hein.
Ce qui n'est pas le cas des Gilets jaunes.
Absolument. Alors il prend une dimension politique ensuite, hein, au moment des élections de 56. Mais avant cela, non.
Alors il faut évoquer, Dominique Borne, l'extension de ce mouvement du poujadisme en quelques mois. À vrai dire, il trouve un écho, un rayonnement inattendu, et il faut en mesurer la force et peut-être les ressorts en écoutant la voix de Pierre Poujade, qui est un orateur. L'écouter en meeting et celui du Vélodrome d'hiver en juillet 54, à peine un an après la naissance du mouvement, est tout à fait topique.
Je disais, une éducation civique s'est faite dans la couche sociale que j'ai l'honneur de représenter. Et enfin, c'est le grand espoir de la France, ces gens, ces commerçants et ces artisans, ayant la réputation d'être des affreux grippe-sous, des gars qui ne pensaient pas plus loin que leur tiroir-caisse, sont sortis de leur boutique pour défendre précisément ce tiroir-caisse. Et une fois qu'ils ont été dans la rue, ils se sont aperçus que le tiroir-caisse, ce n'était qu'une partie du problème, et une toute petite partie du problème, que c'était l'entreprise tout entière qui était menacée, et que c'était même derrière l'entreprise, que c'était la famille tout entière qui était menacée, le patrimoine depuis A jusqu'à Z, et ses boutiquiers. Et c'est là, je le répète, le grand honneur du mouvement, ces boutiquiers dans leur majorité ont fait l'évolution qui permet aujourd'hui de pouvoir prendre les problèmes en face.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Il chantait juste Pierre Poujade, à la différence de la plupart de nos présidents de la République. On peut faire une anthologie de la manière dont il chante la Marseillaise. Nous l'avions fait naguère dans une émission. C'est un grand effet comique. Là, il chante bien.
C'est un bon convive de fin de repas, hein, qui aime bien entonner la ritournelle. Deux remarques quand même. Pour arriver à Paris, il a fallu un an. Par rapport à ce qui se passe actuellement chez les Gilets jaunes, Paris était immédiate. L'occupation des ronds-points à Paris, le premier samedi, hein, si je puis dire. Hein.
Mais l'automobile permet d'arriver plus vite, l'automobile qui est très
importante là,
aujourd'hui et qui, à l'époque, commençait de l'être à coup de CVRP, mais qui n'avait pas la même portée.
Et puis là, il y a une conquête lente, département par département, et c'est ensuite qu'on arrive à Paris. Deuxième remarque, là, il y a un chef. Deuxième remarque, il y a un chef, et qui entend être chef, qui entend cheffer, comme disait... un chef, c'est chef, hein, si je puis dire.
Qui disait ça, c'était le général de Villiers, vous voulez
oui,
dire.
Oui, absolument, un chef pour cheffer. Et qui s'est tout le temps méfié de tous ses lieutenants. Il y a eu des purges périodiques au sein du mouvement. Il y a eu la volonté de ne pas mettre le siège social ailleurs qu'au-dessus de la boutique, parce que comme ça, il avait tout en main, alors qu'on voulait le mettre ailleurs.
Ah oui, il a une grande capacité de couper les têtes, qui émergent. Par exemple, celle de Jean-Marie Le Pen, qui était à un moment donné député en 1956, et au bout de quelques mois à peine, la brouille a été manifeste.
Il ne supportait pas quelqu'un qui est un peu
de surface
et de voilà. Et donc là, il y a un chef qui ne supporte pas la concurrence.
On observe qu'il y a très peu de femmes. Dans ce mouvement, c'est une grande différence avec les gilets jaunes. C'est
non seulement il y a très peu de femmes, mais vous l'avez entendu dans le passage qu'on vient d'écouter, il a parlé de sa lutte, il a parlé de la famille et du patrimoine lié à la boutique. Il parle sans cesse de la famille. C'est très véchiste. Et puis, la femme, c'est à la fois la mère, c'est la Vierge Marie, hein, la femme. C'est la mère, c'est elle. J'ai dit quelquefois, c'est elle qui fait la comptabilité, hein, et qui tient le tiroir-caisse. Mais c'est en même temps, les femmes ne travaillent pas. Et dans les photos que nous avons des manifestations poujadistes, il y a pas de femmes. Hein. C'est un peuple d'hommes en béret en général. Hein. C'est l'époque du béret comme couvre-chef. Hein. Mais il y a pas de femmes. Hein. Les femmes n'apparaissent sinon l'admirable Yvette. Et alors, Yvette, qui était une fille de pieds noirs, et qui a permis plus tard de lier le combat avec le combat contre l'abandon de l'Algérie.
Nous allons y arriver, mais auparavant...
Autrement, les femmes seront absentes.
Auparavant, je voudrais que nous fassions un bref inventaire des mots de la révolte. Vous évoquiez les ensaucissonnés,
oui.
Dominique Borne. Il y a les enrubannés, les comitards de tout poil, les bourgeois pantouflards, les chrétiens hypocrites, les socialistes en peau de lapin. Et en face, il y a les braves gens, contre les prébendiers, les fossoyeurs, les rapaces, les charognards, les faillitards liquidateurs. Il évoque tous ceux qui immatriculent, modernisent, mettent en fiche les idéologues et leurs élucubrations intellectuelles, les messieurs qui sortent de Polytechnique, qui sont allés à l'école jusqu'à 25 ans, les technocrates et les bureaucrates. Là, est-ce que vous n'éprouvez pas qu'il y a quelque chose comme si, une annonce d'aujourd'hui?
Si, bien sûr. Ça peut se résumer par deux mots, les petits contre les gros. C'est ce qui résume à peu près l'ensemble de ce que vous avez dit.
Formule de la Troisième République, les gros.
Absolument.
Les trusts, on voit ressurgir les trusts.
Absolument, absolument. Mais et les gros, c'est aussi sur le plan international. Hein. C'est aussi contre les États-Unis, par exemple. Ça s'étend au-delà. Hein. Ça ressemble effectivement à une France qu'on entend sur certains ronds-points, bien sûr.
L'idée est la santé du peuple. Le peuple est sain. Tout ça, c'est du vulgaire, diront les intellectuels fatigués.
Voilà.
Ceux qui, comme Jean-Marie Domnac, dans Esprit, écrivait « Petit fascisme pour petit français ».
Petit fascisme pour petit français.
Alors là, c'est vraiment de la condescendance.
C'est vraiment, c'est à la fois, ils sont même pas capables d'avoir du vrai fascisme. Et donc, alors, en fait, ce qui s'oppose là, dans ce combat de mots, ce qui s'oppose, c'est deux types de France. En même temps que Poujade défend la boutique, il y a une catégorie sociale qui apparaît. Le mot commence à être utilisé dans la même période, c'est le mot cadre. Les cadres. Et les cadres, c'est la France nouvelle qui apparaît. La France des cadres. Hein. C'est complètement opposé à la France de la boutique. C'est ceux qui lisent l'Express et qui vont voter Mendès France. Hein,
L'Express est fondé en 1953, l'année même.
Absolument.
Par Jean-Jacques Servan-Schreiber, l'année même de la naissance du poujadisme.
Du point de départ du poujadisme.
Le journal de Mendès France.
Donc, c'est véritablement deux France qui s'opposent, deux sociétés qui s'opposent, dont l'une va continuer à progresser. Hein, alors que l'autre, effectivement, le nombre de boutiquiers va diminuer considérablement en France.
Du côté des intellectuels, il y a quelqu'un d'aussi notable que Roland Barthes, qui fait, dans son livre fameux Les Mythologies, parle du poujadisme et qui dit, condescendance, vous allez voir, et même davantage, ce qui est sinistre dans le poujadisme, c'est qu'il est d'emblée prétendu à une vérité mythologique et poser la culture comme une maladie, ce qui est le symptôme spécifique du fascisme.
Oui. En clair, à Paris, dans les comités de rédaction des journaux, chez les intellos et tout, le poujadisme, c'est la vulgarité. Je crois que c'est le mot qui convient, je crois, pour qualifier le poujadisme. C'est vulgaire.
Ce que les poujadistes reprennent comme une fierté.
Bien entendu, bien entendu.
Il faut dire que la Quatrième République, dans ces années-là, se défend, tout en s'inquiétant beaucoup du poujadisme. Et on a découvert après coup que le système policier permettait de savoir beaucoup de choses sur le poujadisme. C'est une manière, effectivement, de se protéger contre ses effets potentiellement délétères. Écoutez cette intéressante, cette curieuse interview de Jean-Émile Vier, ses souvenirs. Il était à l'époque directeur des renseignements généraux. Il raconte comment le gouvernement avait infiltré le poujadisme. C'est un extrait de l'Histoire en direct de Patrice Gélinet sur France Culture le 5 février 1990.
Oui, nous l'avons suivi de très près. Il inquiétait beaucoup le gouvernement, c'est-à-dire que nous avons donc mis en œuvre les moyens normaux des renseignements généraux. Pierre Poujade était, vous le savez, un papetier de Saint-Céré. On a sonorisé et écouté sa maison, ce qui veut dire que l'on entendait à la fois les communications téléphoniques qu'il passait à l'extérieur et en même temps ce qui se passait, les discussions qui avaient lieu entre ses hôtes et lui dans la pièce où était installé le micro. C'est dire que à peu près aucune de ces directives ne pouvait véritablement nous échapper. Au surplus, d'ailleurs, nous l'avions infiltré autrement, puisque un fonctionnaire des renseignements généraux avait été chargé d'adhérer à ce mouvement et d'y recruter des amis et des informateurs. Et ce garçon, qui était un garçon intelligent, y avait parfaitement réussi.
Et personne ne s'en est douté au mouvement Poujade ?
Dans le mouvement Poujade, j'ai le sentiment que personne ne s'en est douté, puisqu'ils n'ont pas mis fin à ces procédés. L'inspecteur en question y est resté jusqu'au bout. Il était même apparemment tellement partisan que je me suis demandé s'il n'était pas devenu lui-même poujadiste. C'est une aventure qui m'est arrivée dans d'autres circonstances. En ce qui concerne les micros, si s'était aperçu qu'il y en avait, il les aurait manifestement enlevés.
J'ai le sentiment, Dominique Borne, qu'aujourd'hui, les gilets jaunes ont trouvé plus de moyens d'échapper aux investigations de la police et des renseignements généraux grâce, encore une fois, à Internet.
Oui, puis c'est plus difficile de sonoriser les ronds-points, ça pose quelques problèmes quand même.
efficacité et en même temps inquiétude du côté des élites politiques. Je relève dans le journal de Vincent Auriol, qui est président de la République jusqu'en 1953, l'expression d'une grande inquiétude sur l'impuissance de l'État à l'égard de ceux qui s'en prennent aux opulents, que Auriol lui-même d'ailleurs dénonce.
Auriol, qui est, vous savez qu'on a édité, c'est une grande entreprise éditoriale, l'édition du journal que tenait Auriol.
Sept gros volumes lancés par Pierre Nora.
Absolument, a été une grande entreprise éditoriale, tout à fait passionnante. Hein. Et pour l'année 53, Auriol, qui joue guère un rôle politique très important, puisque la quatrième, le président de la République, joue un rôle faible, mais qui est un observateur lucide. Et Auriol, observateur lucide, considère le gouvernement, c'est à l'époque, ce que vous citez, c'est à l'époque du gouvernement Laniel, si je ne me trompe pas.
Hein. Vous ne vous trompez pas, 1953, et l'époque aussi des grandes grèves qui secouent la France.
Des grandes grèves de l'été 53, de la grève de la SNCF en particulier, et il a l'impression d'une impuissance. Ce que donne la lecture d'Auriol, c'est l'impuissance générale de l'État.
On ne fait rien contre les opulents, rien contre les commerçants qui achètent le vin à 25 francs et le revendent 70, rien contre les bouchers. Et puisque je parle du vin, il faut probablement dire un mot de la question des viticulteurs dans le mouvement poujadiste dont nous parlons ce matin.
Oui, parce que nous sommes dans une période où, surtout dans le Languedoc, ce n'est plus le Languedoc d'aujourd'hui où on fait du vin tout à fait excellent, mais le Languedoc de cette période, des années 50, est un Languedoc où on fait du vin courant, de grande consommation, c'est le vin Margnat, c'est le vin dans des litres qu'on achète, Postillon, toutes ces marques anciennes.
Hein. Toute notre enfance.
Il y a une surproduction aggravée par le vin d'Algérie. C'est important pour l'Algérie, ça, parce que le vin d'Algérie arrive à 7. Sète est le grand port viticole, si je puis dire. Et puis, il y a surproduction de vin.
Mais puisque nous parlons du vin, il y a la mythologie du lait et la mythologie de Mendès France. Il naît une sorte de dialogue avec le président du Conseil qui, dans une atmosphère d'espoir neuf, il va faire la paix en Indochine, qui arrive au pouvoir en 1954. Précisément un an après la naissance du mouvement poujadiste. Écoutez ce discours de Pierre Mendès France qui est prononcé à la foire d'Annecy le 26 septembre 1954 et qui annonce la distribution du lait dans les écoles suivie de la réaction de Pierre Poujade. C'est une lecture de Jean-Louis Grinfeld. Ici encore, c'est une émission de Patrice Gélinet en 1990, en février 90, que j'ai déjà utilisé antérieurement.
Le gouvernement a décidé de consacrer à la production de sucre les deux tiers du contingent de betteraves qui devait normalement être affecté cette année à la production d'alcool comme l'an passé. Financièrement, l'opération ne diminue guère les charges du Trésor, mais nous préférons produire plus de sucre, nourriture bienfaisante, et moins d'alcool inutile et souvent même nuisible. Sans doute, notre production de sucre posera un problème d'écoulement. Une partie en sera exportée avec prime. Une autre partie ira vers l'Union française qui s'approvisionnait trop souvent jusqu'ici à l'étranger. Une partie enfin permettra de réaliser au profit des enfants de nos écoles un projet dont nous nous sommes beaucoup occupés au cours des dernières semaines. À partir du 1er janvier prochain, entrera en application un plan de distribution de lait sucré dans les écoles publiques et privées de France. Ces distributions seront salutaires pour la santé de nos enfants. Elles aideront à écouler une partie de notre production laitière et sucrière. Et elles prépareront une modification progressive des habitudes des consommateurs dans notre pays, où des aliments riches et énergétiques comme le lait et le sucre ne sont pas consommés autant que le voudraient la santé et la vigueur de la race, alors que dans d'autres pays voisins et semblables aux nôtres, ces aliments contribuent plus largement à la ration moyenne de la population, le progrès social, il est là aussi.
Si vous aviez une goutte de sang gaulois dans les veines, vous n'auriez jamais osé, vous, représentant de notre France, producteur mondial de vins et de champagne, vous faire servir du lait dans une réception internationale. C'est une gifle, monsieur Mendès, que tout Français a reçu ce jour-là, même s'il n'est pas un ivrogne.
Oui, nous avons entendu en réplique à Mendès France, un propos de Pierre Poujade lui-même dans son livre, j'ai choisi le combat, Mendès Lolo, dit-il. Et il y a là, d'ailleurs, assez vite, l'ombre d'un début d'antisémitisme.
Pas seulement l'ombre, le vieil antisémitisme français.
Oui, avec le signe du complot des riches.
Le signe du complot des riches, effectivement. Et ça englobe le capital, ça englobe tout cela. Hein. Mais il y a clairement de l'antisémitisme, oui. Dans la, on ne supporterait pas des propos comme ça maintenant. Hein. Ça relève de la loi même, des propos comme cela.
Quant au sucre, on imagine mal aujourd'hui cette promotion du sucre.
Absolument.
Les temps ont changé.
Là, c'est un peu décalé, absolument.
Et le lait n'est plus distribué dans les écoles?
Le lait, je ne suis pas sûr qu'il l'ait longtemps été.
Mais revenons justement à cette période spécifique de... Je parlais de l'Indochine, c'est aussi le moment des événements d'Algérie. Et cet aspect de la conjoncture est important dans l'histoire du poujadisme que nous évoquons ce matin.
Oui, je crois que le poujadisme ne s'est pas relevé de la défaite de 40. Et que ce qui se passe 54, Dien Bien Phu, la fin de l'Indochine française... Et en même temps, le début de la guerre d'Algérie, des événements, disait-on à l'époque de l'Algérie, ça signe la décadence de la France. Et cette décadence de la France, elle est marquée aussi par l'impossibilité pour le petit commerce de vivre.
C'est d'ailleurs donc, à Alger qu'un des premiers congrès...
Il y a eu un congrès à Alger en raison de la famille de Madame Poujade. Hein, on a fait les visites de famille en même temps que le congrès, hein, visiblement. Mais la France est en décadence... Elle perd son empire, et ce qui explique que la vraie guerre pour Poujade, c'est la Première Guerre mondiale. Là, véritablement, on a combattu, et les souvenirs, son père a été ancien combattant, hein, le père de Poujade, et on a combattu contre un ennemi, on a tenu Verdun, etc. Hein. Tandis que là, on va de désastre en désastre. Hein. Et Poujade n'a pas été, semble-t-il... On sait bien comment le général de Gaulle a réussi à faire rentrer la France dans la guerre et a essayé de lui faire oublier qu'elle avait été vaincue en 40. Hein. Poujade, lui, n'a pas oublié qu'elle a été vaincue en 40, visiblement. Hein, visiblement. Et donc, c'est le sentiment de décadence et de déclin. Sentiment très fort de décadence et de déclin. Et c'est pareil pour la boutique. La boutique décline comme la France décline. Hein. Donc, il y a tout un ensemble ici qui mène à la politique. Hein. C'est comme ça qu'on passe, je crois... de la défense d'intérêts professionnels à la politique et aux élections de 56. Hein. C'est comme ça qu'on y passe.
À côté de l'UDCA, c'est-à-dire l'Union de défense des commerçants et artisans, qui est l'instance originelle...
Et syndicale.
Poujade développe des unions parallèles.
Défense des paysans, défense des jeunes, etc. Hein.
Et c'est comme ça qu'il prépare les élections de 56, où, à la surprise générale, ce sont des élections à la proportionnelle. Le succès des listes poujadistes surprend les observateurs, surprend l'opinion en général. Les poujadistes ont plus de voix que le mouvement... que le MRP, le mouvement démocrate chrétien, qui était pourtant puissant. Et il y a 52 députés qui sont élus au Parlement. Leur destin va être assez complexe.
Oui, il y a eu 2 millions de voix, alors que les observateurs pensaient qu'il y en aurait 1 million. Donc c'est à doubler. Ça représente 10% à peu près des votants sur une élection où il y a eu 82% de votants. Donc une élection qui a eu beaucoup de succès. Les poujadistes ne sont pas étrangers au succès de ces élections.
Le système est à la proportionnelle, ce qui permet effectivement à un parti tel que les poujadistes d'avoir plus de sièges que ce ne serait le cas aujourd'hui.
Proportionnel et le système complexe des apparentements leur a permis quelquefois d'avoir la majorité absolue et donc d'emporter tous les sièges dans certains départements. Mais très vite, l'Assemblée a invalidé une partie d'entre eux. Alors c'est compliqué parce qu'il y avait aussi des députés qui étaient apparentés au groupe et qui n'était pas véritablement dans le groupe, mais l'Assemblée a éliminé à peu près une dizaine de députés poujadistes ensuite.
Et les a de fait éliminés ensuite ceux qui restaient, en les rejetant dans leur incompétence de parlementaire, leur désarroi, leur timidité.
Et c'est là où Poujade a compris qu'il avait fait une erreur en n'étant pas candidat lui-même et en n'étant pas à la tête de ses troupes au Parlement. Et progressivement, c'est le début de la fin, les élections de 56. C'est le grand succès, le début de la fin.
L'historienne Annie Colovald a analysé l'échec des parlementaires. Ils ont été complètement désorientés dans ce monde qu'ils ne connaissaient pas.
Voilà. Bien que, les pauvres petits pezzouilles, disait Poujade en parlant d'eux, les pauvres petits pezzouilles, ils arrivent au Parlement. Ils arrivent sans leur chef. et leur chef cherche à se faire élire dans une élection partielle en 57. Et en 57, c'est fini. Il est sévèrement battu dans une élection partielle à Paris, la même où Le Pen avait été élu, parce que Le Pen était parti s'engager en Algérie.
Quartier latin.
Et donc, il est sévèrement battu, et c'est le début de la fin du poujadisme, là, à ce moment-là. Hein.
Et quand De Gaulle arrive au pouvoir, en 1958, l'affaire est faite.
Ben, quand De Gaulle, il recueille les fruits, à mon sens, que Poujade avait semés. Hein. Il n'y a plus qu'un fruit à cueillir, c'est-à-dire l'homme providentiel, c'est-à-dire l'action contre l'impuissance, tous ces thèmes du général De Gaulle. Hein. Il recueille ces fruits-là.
Alors, je voudrais, pour conclure cette conversation, Dominique Borne, sur le poujadisme, en ressemblance et en différence, vous l'avez très bien montré, chemin faisant, avec le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui, je voudrais que nous essayions d'interpréter le poujadisme et de revenir sur ses différentes composantes. Il y a l'esprit ancien combattant, le refus du jeu des partis, il y a l'héritage des ligues, et puis il y a la tradition de l'appel au peuple et du leader providentiel. L'action française, on retrouve beaucoup d'échos de l'action française de Maurras avant la guerre parmi les comportements et les troupes du poujadisme.
Oui, ce qu'il faut dire d'abord peut-être, c'est que quand on regarde le livre que Poujade a publié, « Choisi le combat » en 55, il y a toutes sortes de citations en épigraphe. Et si je regarde, là je tombe au hasard sur Diderot, je tombe sur Jaurès, je tombe sur tout le panthéon français. Donc il prend en bloc tout le monde. Toute l'histoire de France est vénérée.
Donc le refus, comme nous le disions, d'être assigné à la gauche ou à la droite.
Absolument. Et toute l'histoire de France est la vraie histoire de France jusqu'en 39-40. Hein, où là, il y a la rupture. Il y a la rupture parce que la France est vaincue. Alors, il ne le dit pas comme ça. Là, c'est une interprétation, bien évidemment. Mais il prend à toutes les boutiques idéologiques, si je puis dire.
Oui, mais l'organicisme contre-révolutionnaire est plus présent que d'autres traditions.
Oui, et en même temps, l'appel au peuple, les états généraux, tout est en même temps. Hein. Je crois pas qu'on puisse dire que l'un domine l'autre. Il y a aussi, de la part de Pierre Poujade, je crois qu'il faut le dire aussi quand même, quand je l'ai rencontré 20 ans après, quand je faisais le livre, hein, dans les années 70.
Oui, alors quelle impression?
Ben, l'impression, je l'ai rencontré, c'est bien sûr dans un bistrot. Hein,
Pourquoi bien sûr?
Parce que c'était un homme de bistrot, un homme de comptoir, hein, visiblement. Et quand il racontait son aventure, hein, il l'a raconté comme une grande marade. On s'est bien marré, hein, avec les copains, hein. Qu'est-ce qu'on a fait? On chahutait en 56 les campagnes électorales de Mitterrand. On allait troubler les campagnes électorales. Mais c'était bien marrant, hein.
Dans la Nièvre,
hein. On s'amusait bien entre copains. Alors, c'est très masculin. Encore une fois, c'est une France très masculine, à la différence actuellement des Gilets jaunes, où une des nouveautés de la présence des femmes, très importante sur les ronds-points.
Mais sortir de sa solitude, c'est aussi un élément contemporain actuel.
Mais sortir de la solitude, être entre les copains, là aussi, le sentir concrètement la solidarité, oui. Il y a quelque chose comme ça, le sentiment d'avoir une solidarité concrète.
Il y a cette tradition de l'esprit ancien combattant, qui est important, je crois. La référence au poilu est fréquente chez lui. Écoutez cette lecture d'un texte de Poujade de 1956.
Ils ne passeront pas. Verdun. Il y a 40 ans, la France jetait ses meilleurs hommes contre la ruée furieuse de l'envahisseur allemand. Survivants de ces heures glorieuses, avez-vous oublié le sang versé, les souffrances communes, l'enjeu de votre victoire ? 1916, c'était la vie même de la patrie que vous défendiez, votre liberté, votre travail, votre sol, l'avenir de vos enfants. 1956, c'est l'existence de la France qui est menacée, sa liberté, son indépendance et le destin de ses fils trahis par des chefs sans honneur. Ils ont bradé deux victoires, liquidé l'Union française. Combattant de toutes les guerres, avec Poujade, souvenez-vous du cri des poilus. Ils ne repasseront pas. Sortez les sortants.
Voilà la référence à la Grande Guerre et par conséquent au tempérament des anciens combattants et par conséquent aussi à l'esprit des ligues dans l'entre-deux-guerres, qui est très, très prégnant. Les événements de Suez en 56, où la France et la Grande-Bretagne sont obligés de reculer après avoir gagné la bataille, la suite de la nationalisation par Nasser du canal de Suez, cette humiliation-là compte et pèse dans l'histoire du poujadisme.
Oui, parce que Poujade était tout à fait opposé à l'expédition. On pourrait penser naïvement qu'avec son côté cocardier, l'expédition de Suez, Massu débarquant, Massu parachuté sur le canal, etc., serait approuvé par les poujadistes. Absolument pas. Parce que tout ça, dit Poujade, c'est pour les beaux yeux de la reine d'Angleterre. Et on obéit aux Cosaques. Et il y a une détestation de tout ce qui n'est pas français. Il y a une phrase de Poujade que je vais citer inexactement parce que je la cite de mémoire. Il veut que le coq français chante Cocorico et non pas Coca-Cola. C'est extraordinaire, ça.
Il rejoint les communistes qui étaient très
hostiles. Il rejoint les communistes, c'est le début du Coca-Cola en France. Hein. Ça arrive autour des années 50. Voilà. Et donc, il y a un repli sur... Alors ça, on est dans les ligues, effectivement. Il y a un repli sur soi, une fermeture sur soi. On n'entend pas beaucoup les gilets jaunes sur la politique extérieure. Hein. J'ai pas entendu grand-chose sur la France dans le monde, sur l'Europe. Il y a pas grand-chose.
D'ailleurs, il y a assez peu d'attitudes anti-immigration chez les gilets jaunes. Chacun l'a remarqué.
Absolument. Sauf quelques points isolés, mais isolés.
Il faut finir sur la question de l'appel au peuple et du leader providentiel. Depuis qu'il y a une république, il y a une mise en cause du fonctionnement de la démocratie représentative. On retrouve un peu du boulanger.
On retrouve du boulangisme dans ce sentiment. Car c'est un moment, les Français ont que la France n'est pas efficace, que la république n'a pas d'efficacité réelle, et que pour qu'elle ait une efficacité, il faudrait quelqu'un à poigne. Il faudrait quelqu'un qui soit chef. Et donc Poujade se présente comme celui qui. Hein. Mais ensuite, les rapports avec le général de Gaulle seront un peu compliqués, parce que le général de Gaulle avait eu ce mot fameux, autrefois, les épiciers votaient pour les notaires, maintenant les notaires votent pour les épiciers. Je trouve que c'est un mot superbe sur le poujadisme. Hein. Et le général de Gaulle participait aussi du mépris ambiant, si je puis dire, par rapport au mouvement Poujade. Mais Pompidou, ça va être la gloire du mouvement déclinant. Pompidou va recevoir Poujade à l'Élysée. Et on a des photos de Pierre Poujade et de Madame sur le perron de l'Élysée, reçues par Pompidou. Et enfin, nous sommes reconnus à l'Élysée. C'est comme un succès final.
Et n'est pas tout à fait final, puisque Mitterrand aussi a reçu Poujade, l'a nommé membre du Conseil économique et social. Tu as manifesté une considération qui a un peu irrité du côté de certains nombres de dirigeants du Parti socialiste.
Absolument.
Nous ne pouvons que nous interroger aussi, en parlant du Poujadisme, sur la nature de sa dissolution. Et cela, il ne s'agit pas d'être prophète sur les gilets jaunes et quant à la marque qu'ils vont laisser dans l'histoire de France, mais éclairer ce déclin est néanmoins intéressant.
C'est très difficile. D'abord parce que...
C'est pour ça que je vous le demande.
La boutique s'affaiblit de fait. Hein. Malgré Poujade, il y a un affaiblissement constant. Les supermarchés vont arriver, hein, le premier à Saint-Geneviève-des-Bois, etc. Mais, et puis surtout aussi parce que, je l'ai dit tout à l'heure, rapidement, De Gaulle répond à ce que Poujade incarnait en partie au moins, c'est-à-dire redonner de l'honneur à la France, si je puis dire. Hein. Que la France compte à nouveau, que la France parle fort, qu'elle est un représentant. Hein. Et c'est très différent avec le mouvement des Gilets jaunes, qui ne supporte pas l'incarnation que représente Macron. Hein. Alors que là, chez Poujade, on a besoin d'une incarnation, me semble-t-il.
À condition que ce soit lui.
Quand il a compris que ça ne pourrait pas être lui, il se contente d'être invité à l'Élysée, hein. comme l'eau de consolation, si je puis dire, de sa vieillesse. Hein. Après, il a fait des affaires touristiques, il a fait différentes choses.
Il est mort en 2003.
Oui, il a fait du carburant biologique, il a fait des affaires, si je puis dire.
Est-ce que vous reprendriez à votre compte la définition qu'André Siegfried, le grand spécialiste de la science politique et de la géographie électorale, ce mot qu'il avait eu à propos des poujadistes, ce sont ceux qui se débattent bruyamment avec les gestes désordonnés de ceux qui se noient.
On peut dire ça ainsi. On est dans un passage de témoin entre deux classes moyennes en France. Hein. C'est ça le poujadisme. Hein. C'est une maladie infantile, si je puis dire, de la croissance. Hein.
Oui,
alors c'est la maladie infantile de la croissance arrive. Hein.
C'est une grande différence avec aujourd'hui, c'est qu'on est au début des Trente Glorieuses.
Absolument.
Avec l'absence de chômage pratiquement.
Et que la croissance va effacer, en fait. Hein.
Aujourd'hui, les choses sont tout à fait différentes, avec le chômage, avec
aujourd'hui,
un sentiment d'inquiétude sur l'avenir.
Il y a un climat général de désespérance, si je puis dire, hein, de manque d'avenir dans beaucoup de régions de France, et en particulier de régions qu'on appelle les régions périphériques. Hein, et que, alors, l'intérêt, je voudrais dire un mot pour comparer, c'est quand même, autant les gilets jaunes prennent appui sur, physiquement, sur des, ce que j'appelle des non-lieux. Un rond-point, un péage d'autoroute, un parking de supermarché, ce sont des non-lieux. Ça, c'est des lieux qui n'existent pas, qui ne font pas société, si je puis dire. Hein. Autant le poujadisme s'accroche à des lieux réels, la terre. Le petit paysan, la boutique, la halle sur le marché. Donc c'est une autre France hein, que dessinent les deux mouvements. Hein. C'est une autre France qui était enracinée, qui tenait cet enracinement, tandis que la France des Gilets jaunes est une France qui ne sait plus où elle habite, si je puis dire. On pourrait à peu près le dire ainsi. Elle ne sait plus où elle habite, et donc elle habite sur un rond-point. Hein. Et comme on ne veut pas la voir, elle met pour être vue le Gilet jaune. Hein. Alors que le poujadisme veut être vu absolument, mais veut être vu dans les lieux où il exerce, sur la place du marché, dans la petite ville, à l'hôtel Terminus, etc.
Ce sera le mot de la fin, Dominique Born. Non sans que je rappelle le titre de votre livre, qui est paru en 1977, mais qui garde, je crois, toute sa vérité, toute son efficacité, qui s'appelait « Petits bourgeois en révolte ». Vous avez montré qu'il s'agissait bien de petits bourgeois. Point d'interrogation, néanmoins.
Absolument.
Le sous-titre était « Le mouvement Poujade ». Édité chez Flammarion, dans l'Histoire vivante, une collection que dirigeait à l'époque Denis Richet. Auparavant, il y avait un livre fait à chaud en 1956 par le grand politiste Stanley Hoffman, l'homme
absolument
de Harvard, qui aimait beaucoup la France et qui avait publié Le Mouvement Poujade aux presses de Sciences Po. Vous avez d'ailleurs fait fond sur ce
livre. C'est un livre indispensable. C'est un livre absolument indispensable parce qu'il a recueilli toutes sortes de textes, de témoignages qui auraient disparu sans ce livre.
Indispensable aussi, le livre plus récent de Romain Souillac, qui s'appelle « Le mouvement Poujade, de la défense professionnelle au populisme nationaliste, 1953-1962 », un ouvrage publié par les presses de Sciences Po. Il a beaucoup travaillé en particulier sur les archives des renseignements généraux.
Oui, c'est ce que j'ai pas fait.
Et insisté sur les traditions qui s'étaient réveillées à ses yeux avec le mouvement poujadiste. Merci beaucoup, Dominique Born. Vous pourrez trouver, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, une bibliographie plus complète sur notre site avec les références et documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, nous irons plus loin en arrière, jusqu'au XVIIIe siècle. Nous parlerons du commerce des livres, chose très importante dans la vie culturelle. Une soif de livres en recevant l'admirable historien américain que j'ai souvent eu déjà à mon micro, Robert Danton. Lundi matin, vous retrouverez à 9h la fabrique de l'histoire d'Emmanuel Laurentin qui consacrera sa semaine au sujet suivant, les citoyens et l'exercice du pouvoir. On ne sera pas tellement loin de notre sujet de ce matin, c'est-à-dire le poujadisme. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Pierre Faucillon à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Véronique Jolivet pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine O'Krent pour Affaires étrangères.